Je vais vous présenter Andrea Cavazzini, collaborateur scientifique à Liège, et aussi Bertrand Ogilvie, directeur du laboratoire Logique contemporaine de la philosophie à Paris 8. Donc je vous laisse d'abord avec Andrea Cavazzini.
Merci. Merci d'abord à Bertrand qui m'a invité pour cette table ronde et merci à vous tous d'être là, et aux organisateurs du colloque. Alors, ce que c'est à quoi j'étais convié, c'est une discussion sur les deux concepts, les deux notions dans le titre, hein, la théorie de la démocratie et le capitalisme absolu. Alors, je vais surtout réfléchir un peu sur le capitalisme absolu, sur la pertinence, la solidité de cette notion qui est utilisée par plusieurs auteurs aujourd'hui, notamment par Étienne Balibar, mais qui déjà en fait une reprise à partir de plusieurs conceptualisations qui viennent, entre autres, par exemple, de Franco Berardi, théoricien italien de l'autonomie des années 70. Alors, donc, capitalisme absolu, j'en parlerai non pas dans le sens d'une généalogie de ces concepts, parce qu'il serait trop compliqué d'en explorer toutes les acceptions, mais en termes absolus, précisément. Donc, est-ce qu'on peut parler de capitalisme absolu à partir de l'horizon conceptuel qui définit la notion de capitalisme depuis Marx, tout en sachant que Marx n'utilise pas le mot capitalisme, mais des termes comme mode de production capitaliste ou rapport de production capitaliste. Et la question, capitalisme est rentré dans le langage commun, de la théorie, du discours politique, donc il n'y a pas un vrai problème avec cette notion. Par contre, ce qui pose problème, qui peut être, qui peut faire objet d'un questionnement ultérieur, est l'adjectif d'absolu. En quoi le capitalisme pourrait-il être absolu? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on évoque cette image, hein, laissons-la dans son statut d'image qui évoque quelque chose. Qu'est-ce qu'on évoque quand qu'est-ce qu'on peut penser à travers cette évocation d'un capitalisme absolu? Bon, si on reprend la définition marxienne, je veux être très littéral, littéralement littéral, qu'on trouve dans le Capital, dans le premier livre du Capital, de la formule générale de l'accumulation du capital, argent, marchandise, argent prime, donc l'argent qui investit et s'investit en tant que capital initial dans des marchandises dont la force travail à organiser et à mettre au travail pour obtenir en surcroît, en surplus d'argent. Effectivement, si on reste dans la stricte interprétation de cette formule, on voit que l'absoluité du capitalisme est déjà problématique. Pourquoi? Parce que les mouvements de spiraliforme de la reproduction élargie, donc de l'accumulation, donc de la production d'une survaleur et donc d'un profit, les primes d'argent prime, doit passer par quelque chose qui est hétérogène par rapport au niveau de réalité indiqué par les passages entre A et A'. Il faut passer par M. Et en passant par M comme condition de cette augmentation, de ces retours sur soi amplifiés, effectivement, on introduit un élément de non-absoluité, au sens précis, un élément d'hétérogénéité que le capital doit constamment, avec lesquels il doit constamment se confronter pour pouvoir exister dans le mouvement infini de sa reproduction élargie. Qu'est-ce que cela veut dire que, il se confronte à cette limite donc immanente, parce que sans M, il n'y aurait pas de passage de A à A', et en même temps, M est quelque chose d'autre que le passage de A à A'. Donc une limite interne qui recule indéfiniment, qui peut donc donner lieu à un capitalisme, si vous le voulez, indéfini ou illimité, mais pas proprement parlé absolu. la figure d'un capitalisme absolu, donc un capitalisme qui aurait transformé en articulation interne tout ce qui lui est extérieur, eh ben, serait tout simplement A'. Donc un passage tel que peut-être le capitalisme financier vise fantasmatiquement à le réaliser, mais précisément fantasmatiquement, parce qu'il ne peut pas empêcher qu'une crise se déclenche. Donc c'est à ce niveau-là que je dirais, qui est très abstrait et un peu formaliste, qu'il n'y a pas d'absoluité du capitalisme dans la mesure où le capital ne peut que s'accumuler indéfiniment à partir de quelque chose qui n'est pas lui-même, qui lui reste hétérogène, sur lequel il peut se greffer de manière parasitaire et qui constitue finalement tout le vaste ensemble de pratiques sociales, des déterminations spatio-temporelles, des valeurs d'usage des marchandises, des conditions socio-institutionnelles, de la disciplinarisation, du disciplinement de la force travail. Tout cela n'est pas du capital. Tout cela n'est pas du capital, finalement. Même s'il peut devenir. Il peut devenir les corps que les capitales habitent pour s'autoreproduire de manière élargie, mais en lui-même n'est pas du capital. Vous produisez une voiture, eh bien, une voiture est très clairement une marchandise, donc sa production donne lieu à la réalisation d'un profit, donc à du capital, mais en elle-même, matériellement, la voiture est un objet technologique, est un objet technique qui a une matérialité technique et non capitaliste, et à la base, elle sert pour se déplacer d'un endroit à un autre. Donc, si on fait une conférence ou une table ronde, on ne peut pas exclure qu'elle donne lieu à un profit de la part des institutions. Non, bien sûr, hein, qu'à cela ne tienne. Mais on ne peut pas exclure qu'il y ait une réalisation de profit capitaliste dans une activité intellectuelle, dans un échange intellectuel, mais les contenus qui circulent dans la parole en eux-mêmes peuvent produire d'autres effets, sont porteurs d'autres qualités. Donc, comme le capital est forcé de se confronter à cette réalité hétérogène, je pense qu'on ne peut pas parler tout simplement de capitalisme absolu en ce sens précis, dans un sens qui identifierait une réduction de la réalité au mouvement du capital, et étant donné que le capital, pour pouvoir produire ces mouvements, a besoin de poser et puis de réabsorber indéfiniment une réalité qu'il n'est pas en mesure d'engendrer. Or, tout cela ne doit pas forcément être, à mon sens, une raison d'un optimisme particulier, parce que la plasticité du capital consiste précisément dans sa capacité à se greffer sur tout ce qui lui est hétérogène. Donc il peut faire reculer indéfiniment cette limite sans pour autant l'éliminer. Il n'y a donc pas de conclusion à tirer de cette non-absoluité en termes des chances que cela apporterait, des avantages que cela apporterait en termes de l'émancipation des rapports des productions capitalistes eux-mêmes. Comme il n'y a pas de valeur d'usage intrinsèquement capitaliste, il n'y a pas non plus de valeur d'usage ou de matérialité que le capital ne serait pas en mesure de subsumer, en l'occurrence. Donc, de ce point de vue, la limite peut reculer indéfiniment sans être éliminée, mais elle peut effectivement être reproduite indéfiniment dans le mouvement A'. En quoi tout cela peut toucher à la question de la démocratie ou généralement à la question de la politique? Eh bien, je pense que l'absoluité ou la non-absoluité, dans le sens que j'essaie de définir, n'a pas forcément un lien avec des conséquences politiques directes. Au sens que le fait que le capital soit une réalité instable et qui est forcé de se confronter à une limite ne produit pas ni son écroulement, ni son effondrement, ni le grand soir. Par contre, il y a un sens dans lequel on peut dire peut-être que le capitalisme est aujourd'hui absolu, au sens que, et c'est un sens précisément politique, à savoir qu'il n'y a pas une visibilité directe, comme il a été le cas pendant le XXe siècle, pendant le XIXe et le XXe siècle, d'un projet politiquement organisé et voulu, d'une volonté politique capable d'articuler de manière claire des moyens et des fins, éventuellement de manière erronée, mais dans la limite de cette erreur, de ces erreurs claires, de une volonté visant à organiser différemment la société sur des bases non capitalistes. Donc, je dirais que s'il y a un capitalisme absolu, c'est une absoluité politique due et non pas structurelle, qui est moins intrinsèque à son mouvement que à l'absence de d'alternatives politiques, dont la racine est effectivement l'éclipse, l'invisibilisation d'une telle alternative, d'une telle perspective après l'écroulement de la perspective communiste au XXe siècle. En quoi cela nous renvoie aux apories de la démocratie, bon, c'est ce que je ne vais pas développer dans cette intervention qui a déjà, je pense, atteint ses limites temporelles. Donc j'en resterai là. En ce qui concerne les hypothèses très sommaires et primaires que je voulais soumettre.
Merci. Bon, alors cette table ronde, comme vous voyez, elle n'est pas très ronde, puisqu'il manque deux participants qui avaient pour fonction de développer des points de vue qui auraient établi une circulation de la discussion. Alors, dans la discussion préparatoire, l'aspect de la question à laquelle je devais me consacrer, sur lesquelles je vais proposer quelques hypothèses, c'est plutôt les apories de l'idée de démocratie elle-même. Donc je vais reprendre à ce niveau-là. Et ensuite, on essaiera de recoudre ce tissu déchiré. Mais après tout, c'est pas grave. C'est un reflet de la réalité que nous vivons. Le mot de démocratie, sur lequel je vais m'apesantir un moment, a comme caractéristique intéressante de connaître des inflexions contrastées qui peuvent aller jusqu'à la contradiction. La démocratie a pu paraître d'un côté de l'Atlantique comme un mot creux et épuisé, au moment même où de l'autre côté, elle représentait tout ce dont manquaient des pays cruellement frappés par des régimes de dictature. Et aujourd'hui encore, il me semble que cette tension n'a pas disparu, même si elle tend à s'effacer. Elle tend à s'effacer au moment même où nous vivons un contexte de ce que l'on appelle de différents noms, capitalisme néolibéral, capitalisme tardif, capitalisme absolu, d'autres encore, qui ont tous en commun cette tentative de nommer et de penser ce que j'appellerais... pour reprendre la suite de ce que vient de dire Andrea, un régime tendanciel d'homogénéisation des procédures de gouvernementalité à l'échelle du globe, et dont ce qui nous intéresse avant tout ici, en tout cas ce qui m'intéresse le plus, c'est d'en pointer les limites et les failles dans lesquelles il est possible de percevoir des zones de résistance, évidemment. Dans mon esprit, les réflexions que nous vous proposons n'ont pas d'autre but, pas d'autre ambition que de faire une sorte de point provisoire sur les usages du mot démocratie et sur les possibilités de relancer, de raviver ou non ce qu'on pourrait appeler ses capacités de description d'un côté et de mobilisation de l'autre, qui ne sont pas évidentes. Je vais donc proposer trois points qui n'ont pas d'originalité particulière, mais qui visent seulement à rassembler des usages pour les relancer dans la discussion. Ces trois points sont les suivants. Premièrement, ce que j'appellerais la démocratie comme fétiche. Deuxièmement, la démocratie comme façade. Et enfin, la démocratie comme écho. Alors, la démocratie comme fétiche. Je commencerai par rappeler des choses que tout le monde connaît, mais qu'il faut sans cesse répété, à savoir que le mot démocratie est un mot d'origine grecque. Je ne dirais pas que c'est un mot grec. C'est un mot d'origine grecque qui, à la fois, nous renvoie à ce constat bien connu, mais dont on n'a pas tiré toutes les conséquences peut-être, que la politique occidentale, à quelques exceptions près, sur lesquels on va revenir, cette politique occidentale s'est dite et se dit encore en grande partie dans une langue d'origine grecque, ce qui, comme le dirait Lévi-Strauss, en dit long sur son peu d'inventivité à l'échelle historique. Mais en même temps, cette origine grecque nous oblige à remarquer à quel point ce mot n'a cessé d'être déplacé et redéfini en profondeur depuis l'Antiquité. Dans le vocabulaire grec, le mot de démocratie est un terme largement péjoratif. C'est presque une insulte qui désigne le pire de ces régimes où règne la masse, la populace, dans ses dimensions violentes et incontrôlées. Terme qu'utilise Aristote pour désigner à peu près ce qu'on vise à travers aujourd'hui le mot de démocratie, et plutôt celui d'isonomie, qui n'a justement pas été retenu par l'histoire et par la modernité. Et c'est donc à l'issue d'une longue histoire que ce terme de démocratie est repris et réinventé à l'époque des révolutions modernes, plutôt en Amérique du Nord, comme le montre la grande étude de Tocqueville de la démocratie en Amérique, et ensuite surtout, je dirais schématiquement, mais il me semble ici que ça vaut la peine d'être schématique, surtout après la Seconde Guerre mondiale au XXe siècle, Seconde Guerre mondiale qui le consacre dans son statut de fétiche positif, de régime idéal et incontournable, dans deux contextes agoniques, à la fois face au communisme, qui pourtant détourne son usage en inventant la formule de démocratie populaire, et d'autre part face aux dictatures militaires. Et c'est à ce moment-là, et donc à une époque relativement récente, que le mot de démocratie acquiert ce statut étrange, ce statut intégralement positif d'idéal de justice et de liberté qu'il possède encore aujourd'hui dans le langage courant. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le moment révolutionnaire français, qui n'a d'ailleurs pas trouvé tout à fait sa langue propre, mais qui s'est dit plutôt en latin, à travers principalement les mots de république et de révolution, mais un latin profondément revisité et profondément déplacé, puisque le mot révolution, qui est un mot latin, pivote sur lui-même et acquiert un sens complètement inédit en 1789. Le moment révolution française ne lui a pas accordé au mot démocratie de place privilégiée, et c'est seulement dans le contexte de la guerre froide, donc deux siècles plus tard, que la démocratie est devenue l'horizon incontesté de la politique mondiale. Ce sur quoi il faut insister, il me semble, c'est sur les connotations de cette notion assez vague, de cette notion fourre-tout, de démocratie entendue en ce sens à la fois idéal et défensif. La démocratie, en ce sens, désigne essentiellement un idéal de liberté, de libre expression individuelle au sein du collectif, donc une défense de l'individualité contre le collectif potentiellement oppressif. Ce qui ne vient pas en avant dans cette acception, c'est justement l'égalité et l'égale répartition des biens, autrement dit la justice sociale et la lutte contre les inégalités. Dans ce sens-là, la démocratie fétiche s'accommode tout à fait d'un régime d'exploitation du travail qui garantit les apparences de la libre expression et de la libre circulation de la parole et de la pensée individuelle, du moins jusqu'à un certain point. En ce sens, la démocratie peut être entendue comme ce régime de pacification d'une gouvernementalité organisée autour d'une profonde inégalité. Dans le courant du XXe siècle, elle est devenue, la guerre froide aidant, cette forme parfaite ou tout simplement normale de la vie sociale, cette valeur suprême, ce bien auquel l'humanité entière aspirerait depuis toujours, et soi-disant depuis partout. Et après avoir été l'autre du totalitarisme et du fascisme, elle est devenue aujourd'hui l'autre du terrorisme. C'est une incarnation simple de la justice même, et elle a le statut ambigu de ces concepts que j'appelle concepts à consensus automatique, la liberté en est un autre, c'est-à-dire des concepts avec lesquels, en principe, on ne peut pas ne pas être d'accord, sauf à tomber dans le camp de ceux avec lesquels la discussion n'est pas possible. Cette tendancielle globalisation thématique, à vrai dire plus énigmatique qu'évidente, ne peut cacher sa portée à la fois historique et singulière, et la tension irréductible qui ne cesse de l'animer, ce qui pose la question évidemment de la cohérence de ces critères de reconnaissance et de ses capacités à en changer pour accueillir ou en supporter d'autres de plus en plus contradictoires. Deuxième point, la démocratie, ce que j'appelle la démocratie comme façade. En même temps, en ce début de XXIe siècle, il est tout aussi clair que l'organisation générale du monde, c'est-à-dire sa réorganisation en profondeur, ne correspond en aucun point à ce qu'on peut entendre ou vouloir entendre par démocratie, et se développe au contraire selon des règles qui la bafouent tout entière à chaque instant. Dans un article écrit en 2002, Wendy Brown avance que la démocratie, je la cite, où qu'elle se trouve, ne signifie plus un ensemble d'institutions politiques indépendantes et de pratiques civiles incluant l'égalité, la liberté, l'autonomie et le principe de souveraineté populaire, mais désigne seulement un État et des sujets organisés selon le principe de la rationalité marchande. En effet, on pourrait même entendre par démocratie une façon détournée de désigner le fait d'être ouvert à cette rationalité. Fin de citation. En bref, si on suit cette analyse de Wendy Brown, la démocratie n'est plus que le nom d'un régime, comme elle le dit, d'un régime, je la cite, « prêt pour le business ». Et ici, Wendy Brown reprend l'expression très suggestive du gouverneur intérimaire de l'Irak, nommé par les États-Unis, Paul Bremer, à l'époque de la guerre en Irak. C'est ici qu'on retrouve l'esprit de cette refondation sociale, de ce coup d'État permanent, qui est le programme des organisations patronales françaises, je les cite, refondation sociale et coup d'État permanent étant entrés dans leur vocabulaire, ou encore, pour reprendre des formules suggestives, elles aussi, de Peter Mandelson, qui était le bras droit de Tony Blair, avant de devenir quelqu'un de très important dans la gouvernementalité de l'Europe. Peter Mandelson disait, en parlant de la réforme néolibérale, disait cette révolution, le néolibéralisme Thatcher-Blairien, cette révolution qui consiste en une politique économique non idéologique. Politique économique non idéologique, formule tout à fait remarquable. Donc nouvelle révolution, nouvelle démocratie ou nouvel État, nouvelle acception de la démocratie. Et on serait donc tenté de dire que l'on n'a jamais autant invoqué explicitement la démocratie qu'au temps de sa disparition implicite. Encore faut-il s'entendre sur ce jeu de l'implicite et de l'explicite. Si, comme le souligne également Wendy Brown, cette audace d'une approche purement marchande des problèmes politiques aboutit au fait que la privatisation généralisée n'est plus présentée comme le chemin vers la démocratie, mais comme le nom et la mesure de la démocratie, on peut dire que la disparition implicite se résout en fait dans l'explicitation de cet implicite et dans une revendication qui n'est possible que parce que tous les critères et les indicateurs ont été radicalement déplacés. Cette analyse forte et en un sens difficile à contester n'est pas non plus d'une nouveauté absolue. Elle s'inscrit dans la tradition inaugurée par Marx d'une critique de la démocratie formelle opposée à la démocratie réelle, donc d'un discours sur le droit qui vient masquer la réalité des droits, de leur absence ou de leur limitation, mais évidemment en la radicalisant complètement. Aujourd'hui, on pourrait dire, en poursuivant la métaphore, que la façade tend à devenir transparente et à laisser voir, dans une sorte d'esthétique high-tech, toutes les tuyauteries qu'elle est censée dissimuler. Les nouveaux droits sont désormais les droits de servir, d'être employé au sens strict. Tout se passe comme si le régime duel de l'idéologie légitimante laisser la place à l'expression simple et immanente de la libre nécessité de servir l'universelle machine à reproduire la vie humaine et son inéluctable marché. La force de l'argument réside dans le fait que la naturalité du processus, et on peut même dire son caractère anthropologique, battue en brèche par des décennies de critiques qui s'appuyaient au contraire sur l'affirmation de son historicité, Cette naturalité du processus est désormais affirmée et revendiquée à son tour comme une historicité infinie. Le néolibéralisme a fait sienne la désignation d'une mutabilité indéfinie des formes, d'une flexibilité permanente qui ne conduit plus à une rupture, à une révolution rupture, mais qui conduit à une révolution réitération, sans dehors. Et on voit ici la très savante manipulation des termes. C'est le triomphe de l'immanence qui rejette dans un romantisme passéiste la revendication d'un au-delà du marché qui semble ne plus pouvoir se raccrocher à autre chose qu'à une transcendance de l'irréductibilité que la critique avait pourtant toujours combattue. L'irréductibilité de l'homme qui n'est pas réductible à la valeur marchande. D'où cette, on pourrait dire, mélancolie de la gauche, c'est un terme qu'utilise Wendy Brown, cette mélancolie de la gauche qui est contrainte de défendre ce dont elle s'était toujours défiée, à savoir la démocratie et son double jeu réel-formel, débordé ici tant sur sa gauche que sur sa droite, et que Wendy Brown analyse pertinemment en termes freudiens. Mais en même temps, on est obligé de constater que sa propre rhétorique, je pense ici à la fin de l'article auquel je fais allusion, la rhétorique de Wendy Brown, sa propre rhétorique n'échappe pas non plus à ce mouvement autodestructeur qui se clôt de manière finalement très prévisible sur des formules convenues qui renvoient une fois de plus le changement du côté de l'idéal. Je la cite. Développer et promulguer cette contre-rationalité, entre parenthèses, une représentation différente des êtres humains, de la citoyenneté, de la vie économique et du politique. Donc développer et promulguer cette contre-rationalité est une nécessité capitale si nous voulons façonner un avenir plus juste et combattre aujourd'hui les politiques mortifères de l'Empire américain. Fin de citation. Certes. Mais on voit également qu'une telle analyse s'inscrit forcément aussi dans une autre tradition qui accompagne la précédente comme son ombre et qui doit présupposer aussi une illusion propre à la conscience spontanée des acteurs sociaux, d'autant plus forte que cette conscience ne s'affronte plus au jeu duel de l'idéologie dissimulante, mais au cynisme étalé au grand jour de l'incitation à produire et à servir. Ce n'est plus d'illusion seulement qu'il s'agit ici, mais nécessairement de quelque chose comme une servitude volontaire, un amour passionné du marché et du statut unidimensionnel du consommateur. En d'autres termes, il s'agit de savoir comment il serait possible de dépasser la structure dénoncée en son temps par Jacques Rancière de ce qu'il appelle ce double discours d'un dogmatisme de la vérité cachée et d'un scepticisme de la méconnaissance nécessaire. Et a fortiori dans un contexte historique d'explicitation radicale, non pas seulement théorique mais aussi pratique, qui est le nôtre aujourd'hui et que Rancière ne pouvait alors prévoir au moment où il prononçait ce jugement dans les années 80. Ce qui peut se dire en d'autres termes, comment arracher la revendication démocratique au discours de l'idéal et de l'irréductibilité, au discours de la transcendance des valeurs, à ce statut d'idéal qui, comme tout idéal, est d'autant plus évident et lumineux, d'autant plus désirable, qu'il est définitivement, structurellement irréalisable, pour au contraire l'inscrire dans une perspective résolument immanente, mais qui ne soit pas celle de l'immanence du marché. On peut donner une mesure de la difficulté en revenant une fois de plus sur quelques éléments du bagage sémantique commun à partir duquel notre époque pense et nomme l'horizon de ses revendications. Je simplifierai à l'extrême. La démocratie comme évidence est aujourd'hui portée par un texte déjà ancien, mais qui en est comme la bonne nouvelle, dont la portée est devenue sans doute au moins égale à celui du monothéisme chrétien, et qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. On sait que ce nouveau shibboleth fut obtenu par amputation de son ancêtre de 1789, qui s'appelait, lui, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La disparition du dernier membre de la formule a pour effet de supprimer le mouvement interne qui l'anime et qui concerne précisément son incarnation, qui concerne précisément son instauration, je dirais même son institution dans les faits. La Déclaration des droits de l'homme en général, donc celle qui aujourd'hui a cours, confère à cette formule le statut d'un principe sacré, transcendant, dont la réalisation est finalement laissée à la bonne volonté des gouvernants et des peuples. Il est sous-entendu qu'on ne pourra jamais s'étonner d'une non-coïncidence parfaite entre un principe et les faits qu'il est censé réguler, de par l'écart structurel et insurmontable entre deux registres indépendants, celui de l'idéal et celui de la réalité. D'où la nécessité de rappeler, je dirais volontiers de psalmodier, inlassablement la valeur du principe, tout en sachant que les faits ne le rejoindront jamais complètement. D'où la possibilité étonnante que ce principe s'énonce, et parfois dans des textes officiels, je pense ici précisément au journal officiel, s'énonce de la façon suivante, je cite, « Les hommes sont libres et égaux en droit ». Et pour que vous compreniez bien ce que je vais le dire en espagnol, bien que je ne parle pas du tout espagnol. Les hommes sont libres et égaux, en derecho, on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, justement, la formule française que je traduis ici, que je sors du journal officiel, c'est « Les hommes sont libres et égaux, en derecho ». Hein? En droit. En droit. Au singulier. En droit au singulier. Et c'est là, c'est-à-dire, si on comprend, si on interprète cette formule, ça veut dire en principe ils le sont, mais dans la réalité c'est évidemment une toute autre affaire. Et pourtant, l'écriture officielle, celle de 1789 et celle de 1946 et celle de 1948 à l'ONU, accorde à ces droits un pluriel, évidemment. Les hommes sont libres et égaux en droit derechos. Et c'est là la double rupture révolutionnaire. Celle du droit contre la tradition, celle des droits contre le droit qui se murait à son tour en tradition. Ces droits ne sont pas des principes, dans le texte révolutionnaire de 89, ces droits ne sont pas des principes, mais ce sont des réalités concrètes, juridiques et politiques, d'abord accordées ou obtenues en fait, et à partir desquelles alors le statut d'être humain reçoit son contenu. Ce pluriel, droit, derechos, est la trace et l'ombre portée de la fin de la formule oubliée en 48, et du citoyen. Car la formule de 89 contient cette ambiguïté, ce débat, cette tension suivante. Soit les droits sont des principes intouchables et dépendants de la nature de l'homme en général, et la politique est alors la tentative de les réaliser, jamais complètement. Soit les droits sont des institutions historiquement accordées ou arrachées, donc extensible et toujours rediscutable par les citoyens, et non pas par les hommes en général. Et on retrouve ici le sens grec de l'isonomie, égalité non seulement devant l'application de la loi, mais d'abord égalité dans le processus de sa discussion et de sa confection. La loi, c'est ce qu'on décide avant d'être ce à quoi l'on obéit. Et alors la politique est le lieu, non plus de leur application, mais de leur invention, effective et concrète. Le citoyen est donc évidemment le pivot d'une démocratie dans laquelle le droit fait la réalité de son existence concrète, pratique, politique et économique, par où il devient homme, tandis que l'homme est le sujet d'une démocratie dans laquelle le droit représente l'horizon de son intelligibilité idéale et en fin de compte de son imputabilité. Donné une fois pour toutes, il ne se rejoint jamais, l'homme donné une fois pour toutes ne se rejoint jamais comme citoyen. Dans un cas, la démocratie est le lieu de la dissolution et de la reconstruction des identités des citoyens. Dans l'autre, elle constitue un ordre d'assignation à une identité immuable et principielle, l'homme de l'humanisme, celui qui peut parfois en venir, pour rendre son égalité générale supportable, à exclure certains vivants du groupe des humains. Dans le second cas, bien loin de rompre avec l'ordre traditionnel, ce régime de gouvernement le reconduit. Le kratos, le pouvoir, la police, comme dit Rancière, l'emporte sur le démos, sur la puissance de rupture du peuple, et tout se répète à l'identique. Les dominants gouvernent au nom d'un titre quelconque, et nous sommes, comme aujourd'hui, sous le contrôle d'une oligarchie, d'une plutocratie, accompagnée d'une technocratie, bref, d'un système de domination comme un autre, euphémisé en démocratie, un maître mot comme un autre. Le peuple de la démocratie, au contraire, c'est le peuple de la non-identité, comme le dit Rancière, celui qui effectue sans cesse la redistribution immanente des places, celui qui reste étranger à toute logique de l'idéal, à toute entreprise d'application de principes. C'est celui qui, selon la formule bien connue et inlassablement reprise de Clay, ce peuple qui manque toujours, et non pas celui qui est assis sur son identité, fût-elle une souveraineté. Negri et Rancière sur ce point se rejoignent, sur celui-là en tout cas, le pouvoir constituant est toujours menacé d'être annulé par le pouvoir constitué. Mais penser cette rupture autrement qu'en termes millénaristes, messianiques, apocalyptiques, ou simplement dans le registre traditionnel, syndical ou politique de la lutte contre la domination, n'est pas simple. Surtout quand ce sont les dominants qui semblent bien s'emparer de la rupture dénaturante et que le brouillage radical des identités devient un moyen d'enrichissement considérable et jamais égalé dans l'ordre révolutionnaire du marché. Ou encore quand la non-identité du peuple se renverse sous l'effet dissolvant du même marché en quête éperdue d'identité. L'immanence du processus n'est alors plus une garantie absolue. Troisième point sur lequel je vais aller beaucoup plus rapidement, ce que j'ai appelé la démocratie éco, qui consiste à se demander si, de la même manière que quand Hegel analyse la politique d'Aristote, il indique qu'il manque en elle, dit-il, le principe de la subjectivité que le monde moderne a su développer. Mais il ajoute aussitôt que le monde moderne a néanmoins beaucoup à apprendre de la description aristotélicienne de la cité, dans la mesure où il s'y trouve développer ce que justement le monde moderne a oublié, à savoir la solidarité organique du tout social. Solidarité organique qui n'exclut pas évidemment les contradictions. Autrement dit, cette idée de démocratie éco pose la question de savoir si, par-delà les analyses totalement négatives que je viens de développer, si le terme de démocratie n'a pas en même temps la capacité, par un retour qui extrait de son sens les aspects de ce qu'était en Grèce l'idée de politique, en tant qu'elle pointe le fait que jamais le peuple ne peut se réduire simplement à la population productive, mais qu'il y a toujours une dimension autre, qu'il y a toujours une dimension du politique qui exclut cette pure et simple présence dans un système économique, cette dimension de la politique au sens propre, accompagnée de différents traits sur lesquels Rancière a l'habitude d'insister, à savoir le fait que la démocratie grecque n'est pas un régime mais une tendance, qu'elle met en échec toute tentative de délégation de pouvoir à des spécialistes de la gouvernance, que le tirage au sort consiste à déléguer le pouvoir à ceux qui n'en veulent pas, etc. Cette idée de démocratie, ainsi revisitée, ainsi épurée, je dirais, comme le fait Rancière, a effectivement alors le pouvoir de non seulement de faire apparaître la torsion trompeuse du sens que le mot a acquis dans le langage moderne courant, mais une contradiction fondamentale. Je cite une phrase de Rancière qui est assez radicale sur ce point. Il dit « La démocratie, ce n'est rien d'autre au fond que l'incessant rappel du signifiant anarchique. » Bon, et je m'arrêterai là-dessus pour l'instant.